Alors Serge, bonjour.
Bonjour.
Pourquoi et comment être passé du roman à la BD?
En fait, je n'ai pas passé du roman à la bande dessinée. Quand j'ai commencé à écrire et à me dire que je voulais écrire et que je voulais devenir écrivain, vers 15-16 ans, je ne faisais pas vraiment de différence entre bande dessinée et littérature. Voilà, les histoires me venaient sous une forme ou sous une autre et je ne discutais pas la manière dont ça venait, c'était la même activité pour moi. Et puis, assez curieusement, j'ai fait mes premiers pas du semi-pro, on va dire. Quand j'étais encore au lycée, il y avait à la fois des histoires courtes en BD, dessinées par des amis lycéens en section A, art, et en même temps des nouvelles publiées. Et il se trouve aussi que j'étais encore lycéen quand j'ai eu la chance de créer une émission sur une des premières radios de France, qui était une radio communiste de la banlieue sud. Et cette émission a probablement été la première émission spécialisée sur la bande dessinée à la radio française. Et puis peu après, en 84, j'ai arrêté mes études et j'ai travaillé 3 ans comme vendeur dans les toutes premières librairies albums, avant que ça devienne une chaîne, c'est-à-dire au moment de la création des librairies. Donc, tout en essayant de placer à la fois des scénarios de BD, des nouvelles. Ça a été une activité indistincte pour moi pendant les 6-7 premières années, entre 17 et 25 ans. Et finalement, ce qui a marché, ce qui m'a permis de passer pro, c'est les romans. Donc, c'est là-dessus que j'ai fait porter l'effort, d'autant plus que au début des années 90, c'est un moment où la bande dessinée a connu une grosse évolution. La plupart des grandes revues qui avaient structuré le domaine pendant les années 80, que ce soit Metal Hurlant, À Suivre, Circus, toutes ces revues cessaient d'être des revues de création pour devenir soit des catalogues de prépublication, soit disparaissaient purement et simplement. Et donc pour rentrer dans la bande dessinée, on était passé d'une structure, disons, assez facile et agréable, où on faisait 3-4 histoires courtes dans un magazine, et puis on faisait un album qui les rassemblait, puis un autre album, et puis on avançait comme ça, à la nécessité de proposer tout de suite des grosses séries très professionnelles, chose que je ne pouvais pas faire. Donc je me suis concentré sur la littérature pendant une dizaine d'années, mais je n'ai jamais renoncé à l'idée de faire de la bande dessinée. C'est resté une passion, j'en ai toujours lu, j'en ai plein, et j'ai toujours aimé ça. Et au début des années 2000, il se trouve que Enki Bilal m'a proposé de l'aider à scénariser l'adaptation de La Foire aux Immortels au cinéma, ce que j'ai fait avec beaucoup de plaisir, j'ai beaucoup appris. Bilal m'a présenté Druyer, et puis un peu après, La Talente, chez qui je venais publier Le Livre des Ombres, m'a fait savoir qu'ils souhaitaient eux aussi publier un peu de bande dessinée. Ils avaient quelques boucles de dessinateurs, pas encore de projets concrets. Donc j'ai regardé, j'ai craqué sur deux dessinateurs, Sarah Debauve et Jean-Marie Michaud, et j'ai proposé des projets. J'ai aussi trouvé le nom de la collection de La Talente, Flambant Neuf, et puis tout est parti comme ça. En fait, ça a été, après 15 ans d'écriture professionnelle, l'occasion enfin d'assouvir cette passion de la bande dessinée. Et il se trouve que c'est très curieux d'ailleurs, mais c'est ce qui a pris le pas sur ma production récente. Parce qu'à la fois, j'y prends beaucoup de plaisir que ça marche, mais j'ai absolument pas renoncé à la littérature.
D'accord. Autre question, est-ce qu'on peut considérer la Brigade Chimérique et Métropolis, comment dirais-je, est-ce qu'on peut considérer ton œuvre avortée Métropolis comme le magma originel? Et dans ce cas-là, parce que moi je considère un peu que c'est une forme de tout, ça comme ta grotte de Lascaux finalement.
C'est une très belle question. Oui, on peut considérer effectivement que Métropolis, effectivement, il y a cette chose que, sur laquelle je me suis souvent exprimé. J'ai eu à partir de 98-99 une intuition assez très intense et durable, puisqu'elle me guide toujours aujourd'hui, la nécessité d'un récit mythique concernant les années de l'entre-deux-guerres françaises et européennes, surtout européennes. Cette nécessité, elle était appuyée sur le sentiment très étrange que j'avais à la fin des années 90, quand j'essayais de dissiper, dans la presse, beaucoup, je faisais des chroniques, des critiques, j'essayais de dissiper tous les malentendus incroyables qui pesaient sur la littérature de science-fiction en France, comme si les gens avaient un écran devant les yeux et ne comprenaient pas de quoi il s'agissait. Et j'étais remonté aux sources, c'est-à-dire à l'entre-deux-guerres, à la période de ce qu'on appelle le roman scientifique à l'époque, en me disant, mais il y a là une matière incroyable dont plus personne ne se souvient. Qu'est-ce que signifie cette amnésie? Et donc, j'ai commencé à la fois essayer de la comprendre sur un plan théorique, cette amnésie, cette zone d'oubli, et en même temps à me dire que ça ferait un très beau décor pour un roman. Et donc, à un moment, effectivement, la figure de Métropolis, la ville-monde, dont le nom est connu partout, mais comme celui d'une dystopie, je me suis dit, bah, faisons de Métropolis une ville heureuse. Voilà, ça a été le début du projet. Une ville vernienne dans une Europe où la guerre n'a pas tout détruit. Le projet était flou, mais c'était ça la direction de départ. Et puis, j'ai pas réussi à écrire ce roman, et ça a été un vrai traumatisme. Je sais que c'est peut-être un peu étrange ou ridicule d'employer ces termes, mais je l'ai vécu comme un échec très profond et traumatisant qui m'a empêché d'écrire pendant presque 5 ans. Et tout en étant toujours conscient de l'acuité du projet et en continuant de l'enrichir de lectures, à la fois de romans d'époque. Par la fréquentation de plus en plus assidue, de l'art de l'époque, de la peinture, du cinéma. Je me suis vraiment immergé, disons, dans l'Europe des années 1900-1930. Et à un moment, effectivement, alors d'abord, ça s'est passé en deux temps. Les éditions Omnibus m'ont demandé une anthologie sur le roman scientifique, donc, que j'ai faite, Chasseur des chimères. Et en faisant cette anthologie, en relisant les textes d'époque, je me suis dit, non, mais il y a un récit à faire qui serait formidable. C'est un récit qui raconte comment tous les personnages de l'entre-deux-guerres qu'on peut considérer comme des proto-super-héros, l'Italov, Halifax, le Passe-Muraille, pourquoi pas, les jumeaux chiffreuses, etc., comment tous ces personnages ont disparu. Et plus je réfléchissais au thème, plus je voyais rentrer des figures comme le docteur Mabuse, puis donc Métropolis faisait retour. Mabuse, Métropolis, c'est Fritz Lang, tout ça c'est la même mythologie. À un moment, tout ça s'est aggloméré, a pris la forme de la Brigade Chimérique. Donc c'est effectivement ce chaos originel dont tu parles, c'est bien la grotte de Lascaux. Et masqué, c'est effectivement une tentative pour, après avoir raconté le départ et la fin de l'âge d'or, essayer de le faire revenir. Voilà. Donc c'est pas une suite. Mais c'est une histoire ultérieure située dans le même univers.
C'est ce qui me semblait. On va dire, pour revenir à ta BD, justement, Masqué, tu utilises énormément tout ce qui est code visuel et narratif du comics. Arrête-moi si je dis une bêtise, mais est-ce qu'on peut considérer que l'incipit de ce premier tome, c'est le masque de Charles Baudelaire?
Oui, il est cité, non pas in extenso, mais... il est cité pour parce qu'il va très bien visuellement avec la scène. Pour être tout à fait honnête, je ne sais plus, pourtant c'est pas vieux cette création, mais je ne sais plus si j'ai découvert le poème avant d'écrire la scène ou si j'ai écrit la scène et suis tombé ensuite sur le poème en me disant, ah, ça pourrait coller, oui, parce que cette idée de la femme bicéphale avec le masque, et comme j'avais un personnage de femme tankiste qui porte un casque de combat, je trouvais que c'était parfait, et tellement parfait en fait que j'ai scindé cette partie du poème en deux avec une reprise à la fin
lors de la création du héros, sans de la licence.
Le truc sur la face renversée, le visage renversé à l'abri de la face qui ment, enfin, c'est des visions très très fortes justement sur le thème de la double identité et du fait que peut-être ce qu'on porte c'est un masque social, mais que l'archétype en dessous a peut-être plus à voir avec la vérité. Donc quand on est renversé et qu'on voit enfin la face cachée sous la face qui ment, on voit peut-être la vraie personne. Je ne sais pas si l'incipit, donc c'est le poème de Baudelaire. Ce que je sais, c'est que ce poème à la fois résonne étrangement avec l'histoire telle qu'elle s'est construite, et en même temps affirme une filiation qui m'intéresse entre les situationnistes qui jouent un rôle dans l'histoire, et qui sont eux-mêmes héritiers des surréalistes, qui eux-mêmes désignaient Baudelaire comme leur premier père, en particulier sur le thème de la flânerie parisienne et de la dérive ultérieure, qui sont tout ce qui a à voir avec ce qu'on appelle la psychogéographie, sort d'une manière ou d'une autre des flâneries de Baudelaire dans Paris. Donc c'est dans ces cas-là, il ne faut pas trop chercher à comprendre ni à organiser rationnellement les choses. Il y a des échos qui se produisent, on les met en valeur, on les fait miroiter, et on espère qu'ils enrichissent le récit de leur énergie.
D'accord. Alors justement, par rapport à l'aspect comique, clairement revendiqué, que ce soit dans la Brigade Chimérique ou là, vu que tu sors, enfin vu que les œuvres sortent dans un court laps de temps, j'aimerais revenir par rapport à Masqué justement sur certains aspects. Je pense notamment, je dirais, au petit clin d'œil, au vrai incident 41 dont tu parles au début justement. Tu parles d'une scène effectivement où on introduit ceux qui vont être amenés à être, j'allais dire, non pas les deux héros, mais les deux personnages nous présentant le héros plus tard, parce que pour ma part, le véritable héros de ta BD, c'est Paris. Et effectivement, au niveau du code visuel et au niveau de l'histoire, on a, enfin, du moins, moi j'ai eu le sentiment, en y regardant, qu'on avait l'impression, avec la réintroduction d'une architecture rétrofuturiste, avec l'aspect justement très psychogéographique, à quel point la ville influençait sur l'esprit des gens, comme si on tentait de revenir, non pas à un monde meilleur, mais à une période, je dirais fin années 30, début années 40, mais où la Seconde Guerre mondiale n'aurait jamais eu lieu, où Paris n'aurait jamais cessé d'être la ville lumière qu'elle était à l'époque.
Oui, c'est absolument vrai. C'est un peu comme dans la, comment dire, la filiation avec la brigade est établie. Moi, je suis pas du tout hein, dans la nostalgie, je suis même pas dans l'uchronie. Hein. La brigade n'est pas une uchronie et Masqué n'est pas du steampunk, c'est à la limite une
Pour moi, c'est du rétrofuturisme en quelque sorte.
parodie.
Tu réinventes un présent ou même un futur proche avec des codes visuels
Oui, mais c'est
inspirés du passé.
absurde. D'abord, il y a la procédure. Je ne donne pas de date.
Voilà.
L'histoire est sans date. L'histoire comporte un certain nombre d'éléments contemporains. On voit des Macintosh, on voit Michel Houellebecq, on est dans un univers qui est peuplé de signes que les lecteurs contemporains reconnaîtront comme les leurs. La dimension rétro-futuriste dans Masqué, elle est purement esthétique. C'est-à-dire que
Oui,
le préfet
d'accord.
Bourgard est un psychogéographe, est un situationniste, c'est un type qui a décidé de réveiller la ville. Et ça peut s'entendre à la fois comme une métaphore et comme une phrase, une proposition à prendre au pied de la lettre, comme souvent chez moi. Et pour réveiller la ville, pour accéder à nouveau à ces énergies endormies, enfouies, refoulées, essentiellement refoulées par les traumatismes de la Deuxième Guerre mondiale et de l'occupation, il impose dans l'imaginaire contemporain la silhouette de Fantômas, des constructions rétrofuturistes, il distribue dans l'espace public des icônes qui effectivement agissent sur la mentalité des gens et les ramènent à une époque où Paris était la plus grande ville de l'univers, en espérant que quelque chose se passe. Et effectivement, quelque chose se passe.
Alors, autre point qui m'a énormément intrigué vers la fin, justement, avec la naissance de ton héros, qui fait effectivement. J'ai à la fois très, très watchman et très surfeur d'argent sur le principe. Pourquoi Montmartre?
Parce que Montmartre est une. Dans l'imaginaire parisien, Montmartre est une montagne sacrée, depuis toujours. Elle l'était probablement déjà au néolithique, elle l'était à l'époque gallo-romaine, parce qu'il y avait là-haut un temple. Montmartre, ça peut signifier à la fois le mont des martyrs et le mont de Mars. On pense qu'il y avait en haut un temple dédié à Mars, temple qui devait déjà être érigé lui-même sur les restes d'un temple néolithique ou celte. Quand Saint-Denis est arrivé à Paris et qu'il a été décapité, premier saint parisien, il a repris sa tête et il a marché jusqu'à Saint-Denis en passant par Montmartre, il a été décapité au pied de Montmartre. Les premières montgolfières se sont envolées de Montmartre, Fantômas avait un repère sous Montmartre, enfin bon,
Montmartre finalement
est un lieu totalement magique qui tient à sa double situation de promontoire et en même d'abord de lieu extérieur et intérieur, c'est-à-dire que son annexion à l'imaginaire parisien date d'Haussmann. Avant c'est un lieu extérieur et c'est un lieu intérieur, mais quand on y va on se sent à l'extérieur, il y a toujours la vigne et il existe une organisation de la République de Montmartre qui se proclame indépendante de Paris. Donc même si c'est pour le gag, de toute façon ça veut dire quelque chose. Et c'est un lieu haut et en même temps c'est un lieu bas puisque c'est un lieu qui est complètement creusé de cavernes et de souterrains, de réservoirs. Donc bon, et en plus c'est un lieu avec lequel j'ai une relation affective parce que j'y ai passé une partie de mon enfance. Pour moi, quand on cherche à créer un événement magique ou scientifique, ou pseudo-scientifique, en tout cas un événement hors du commun dans Paris, Montmartre est une sorte de gratte-ciel naturel. Donc c'est un lieu qui est à la fois en sous-sol et en l'air, il joint le haut et le bas, il est dans, dedans et dehors, c'est un lieu charnière, c'est là que doivent se passer les choses extraordinaires.
Ouais, ça rejoint tes clins d'œil au début sur la psychogéographie.
En fait.
À un moment, j'ai lu une de tes interviews pour le site BT Gest où tu t'es amusé à donner une réponse assez sibylline par rapport à ta BD. C'est pas réellement une question. T'as appelé ça de la parachronie, en suppliant pour qu'on ne pose pas les questions de ce que c'est. Moi, je dois avouer que j'ai eu naïvement une définition de tête à te proposer. Est-ce qu'on pourrait pas considérer que c'est une œuvre où la magie réenchante le réel ?
C'est pas une définition de la parachronie, c'est la façon dont on peut formuler le souhait qu'elle fasse effet. Voilà. La parachronie, techniquement, j'ai éludé la question. Peut-être parce que sur ActuSF, on s'était beaucoup disputé sur les forums à propos de la parachronie et du fait de savoir si c'était un gadget ou une catégorie.
Ouais,
moi, j'avais introduit le thème dans la préface de l'anthologie Escale sur l'horizon, justement parce que certains des récits que j'avais choisis, ceux de, je me souviens, Jérôme Noirez, ceux de Léo Henry, étaient des récits qui semblaient trouver la question est-ce que c'est du passé, du futur, du présent, sans intérêt. C'était dans un monde intéressant. Voilà. La parachronie, c'est une forme de renoncement à la chronologie pour dire ce qui fait avancer le monde et ce qui justifie son existence, c'est pas sa présence sur une échelle de date, c'est sa présence sur une échelle d'intérêt. Bon. Il s'y passe des choses. Et peu importe la date. Mais c'est bon, voilà. Alors, est-ce que c'était intéressant ou pas de dire ça, j'en sais rien. Masquer d'une parachronie, et la définition la plus élémentaire qu'on puisse donner de la parachronie, c'est qu'il s'agit d'un présent augmenté, d'un présent enrichi. Donc,
ça fait très dikien.
Oui, non, mais c'est en plus, peut-être que le nom a un peu de glamour, mais la technique elle-même est très, très classique dans la science-fiction. Et elle est asservie de toute façon, cette définition technique, à ce que tu disais au début. C'est-à-dire que le but, c'est pas d'inventer un nouveau topos de la science-fiction ou une nouvelle catégorie de récit. Le but, c'est de réenchanter le réel. In fine, le but, c'est ça. Comme le thème des super-héros, dont pour moi, la vocation est d'enchanter le réel au sens propre. Quand il y a des super-héros dans l'imaginaire de société, je trouve tout un peu plus gai, un peu plus intéressant, même si la société affronte les mêmes problèmes par ailleurs. Mais elle a quelque part une image mythique d'elle-même dans laquelle elle peut se contempler.
Ouais, ce que j'allais dire, c'est faire réappel à des figures mythologiques.
Absolument, voilà. Et je pense qu'on souffre beaucoup dans la culture française contemporaine de ne pas posséder ces figures ou de ne plus les posséder et qu'il y a un désir de les voir réapparaître. Alors, est-ce que le complexe, disons, brigade chimérique masquée est un déclencheur ou est-ce que ce sera juste une aventure en attendant un autre artiste qui trouvera une chose plus profonde, j'en sais rien, mais de toute façon, c'est ce chemin-là que j'essaie de faire.
Par rapport justement à la construction de l'œuvre, partant du principe donc, que ça va être une série en 4 tomes sur un an, tu peux nous en dire plus justement sur tout ce qui est temps d'écriture, boulot avec le dessinateur, rendu définitif et tout le travail, toute l'interaction justement.
Ouais, c'est très fragmenté, c'est d'ailleurs quand on est romancier, écrivain littéraire, c'est assez déconcertant au départ parce que quand on est un écrivain de littérature, on écrit son roman et on l'apporte à son éditeur, il vous dit oui ou non. Il fait éventuellement des suggestions de correction, mais l'interaction est très très vite close. Voilà. Éventuellement, on peut discuter d'un projet en cours d'écriture ou un peu avant. Enfin, ça va jamais bien, moi. Dans la bande dessinée, et spécialement à ce niveau-là, chez cet éditeur-là, où il y a une vraie présence de l'éditeur pour guider le cours sur ses projets, qui regarde, où il y a des directeurs de collection. Et où on a formé un mini-studio, parce que notre but était d'aller vite, où donc il y a un dessinateur, Stéphane Créti, un encreur, Julien Gonarbert, un coloriste, Gaëtan Georges, un dessinateur pour les couvertures, Benjamin Carré, et un directeur de collection, sans parler du lettreur. Donc on est 6 ou 7 à intervenir sur la bande dessinée, et dans la réalité de la création, on est 4 5 sur les planches. Alors comment ça se passe?
Confrérie moine.
Oui, ça donne un peu ça. Moine buveur, mais après tout, c'est pas un boitier.
Moine trappiste.
Moine trappiste, voilà. Comment ça se passe? J'ai proposé un synopsis général au départ qui a été validé, qui faisait une dizaine de pages, qui ébauchait les grandes lignes, mais sur laquelle d'ailleurs je me rends compte que je reviens ou je change d'idée en cours de route, parce que l'écriture a sa propre dynamique. Donc essayer de rester désespérément dans les rails de ce qu'on a conçu au départ sans avoir, avant d'entrer dans l'écriture, c'est désespéré. Moi je dévie toujours un peu, mais je pense que c'est quand même pour le meilleur, c'est plus vivant. Une fois que ce synopsis a été approuvé, donc j'ai écrit le premier tome sous la forme d'un script très détaillé, planche par planche, case par case, dialogué. Travail qui prend entre 1 et 2 mois à peu près. Après quoi, il est transmis au dessinateur qui fait une ébauche, un draft, disons, de mise en place générale, qui est critiqué planche par planche, case par case. En général, je refais quelques dialogues à ce moment-là parce que je m'aperçois que c'est trop long, c'est trop court, c'est trop peu développé, c'est pénible, etc. Après quoi, le dessinateur attaque la phase des crayonnés définitifs où tout le processus recommence, planche par planche, case par case, redialogue. Parfois, on change assez profondément les choses, pas trop, mais ça peut arriver. Ensuite, les planches sont crayonnées, sont envoyées à l'encreur qui les encre. Et là aussi, il y a des retouches. Qui les envoie au coloriste, et là aussi il y a des retouches, et elles finissent chez le lettreur, et tout est relu 2 fois. Donc c'est un processus qui est extrêmement fragmenté, et disons, chaque planche entre le premier jet de l'écriture et la version finale a été vue entre 10 et 15 fois, en 15 étapes différentes. C'est très fragmenté, c'est très curieux de travailler comme ça.
Ouais, vous revenez souvent sur. Enfin, tu remets souvent ton ouvrage sur le fil finalement.
Oui, et puis c'est. Comment dire, l'important, je crois que l'important, c'est quand même que le script originel soit écrit d'un trait, ouais. De façon à ce qu'il y ait au moins une fois une perception de l'unité du récit. Voilà, parce que sinon, c'est très facile de fragmenter toutes les phases, y compris l'écriture, d'écrire ça. La Brigade, par exemple, au début, ou même encore avant, les tout premiers albums que j'ai fait pour La Talente, Thomas l'Estrange et La Couleur, j'écrivais par tranche de 5 pages. J'envoyais au dessinateur et j'écrivais la suite à partir de ces crayonnés pour être en état de surprise. Mais ça devient très vite ingérable. C'est-à-dire qu'on a sans arrêt, on a 4 paquets de planches, celles qui sont vues, pas vues, à moitié vues, à revoir. Enfin, bon, c'est... Voilà. Donc là, non. Là, le masqué, je tiens absolument à écrire chaque album d'un seul trait.
Oui, j'allais dire la Brigade Chimérique, en plus, vous étiez Janus.
Oui, il y a ça. Puis on était bon et puis on était Janus. On avait une collaboration au niveau de l'écriture avec Fabrice, mais par contre on n'avait pas directeur de collection, on était nous-mêmes nos propres juges et parties, donc c'est à la fois plus confortable et plus insécurisant parce qu'il n'y a pas de sécurité.
Pour revenir et finir sur la BD, est-ce qu'on peut considérer par rapport à ce qui se met en place dans dans ce premier tome qu'en fait, tes fameuses anomalies, certaines scènes, ne sont là justement... Enfin, moi, j'ai eu le sentiment que derrière tout ça, il y avait une personne, le préfet, et que le but, c'était quand même, in fine, de créer quelque chose, de recréer justement un héros, et donc de trouver une personne qui pouvait correspondre justement à l'image qui se faisait, et de voir si la greffe, pour ainsi dire, pouvait fonctionner.
Oui, t'as très bien lu l'histoire. Les anomalies, c'est à la fois un gimmick et c'est plusieurs choses. C'est un gimmick, c'est-à-dire qu'il fallait singulariser notre version de Paris Métropole en y créant un climat d'inquiétude et...
assez lourd.
Voilà, paranormal, de choses inexplicables qui favorisent la greffe. Donc c'est une sorte de fluidité de la réalité ou de petit brouillard d'incertitude au niveau du sol, comme ça, qui permet d'envisager tout et son contraire. Les anomalies, c'est aussi pour moi ma petite zone d'ombre personnelle, c'est-à-dire que pour écrire une histoire, j'ai toujours besoin de laisser à mes propres yeux une chose dans l'ombre. Et j'écris pour découvrir ce que c'est. Parce que s'il n'y a pas cette. Si je sais tout d'avance, je m'ennuie en écrivant. Donc il faut que dans l'écriture, je sois à la fois en terrain suffisamment stable pour que ce soit sécurisé et que l'histoire avance, et en même temps que j'ai une énigme personnelle à résoudre dans l'histoire. Donc je suis entré dans l'histoire sans savoir comment j'expliquerai les anomalies. J'écris pour
découvrir ton propre challenge,
comment s'expliquent les anomalies. Je ne le sais pas. Et la troisième raison, c'est qu'il me semble, c'est une sorte de mise en parallèle de l'inconscient humain et de ce qu'on pourrait appeler la mythologie urbaine. L'inconscient humain, sa propriété, c'est que quand il se manifeste, il projette de la vie hallucinatoire sur des objets. Quand votre inconscient a quelque chose à vous dire, il ne frappe pas à la porte pour vous dire « j'ai quelque chose à te dire que tu devrais savoir ». Il anime une statue en la rendant inquiétante à vos yeux. Quand vous rentrez chez vous la nuit, il vous fait vous sentir suivi par quelqu'un. Votre inconscient travaille à l'extérieur de vous en se projetant sur les objets qui vous entourent.
Ou la tendance aussi de l'être humain à humaniser un objet.
C'est l'animisme, voilà. Mmh. C'est le reste de pensée magique qu'il y a en chacun de nous. Ça fait partie de l'inconscient et des propriétés de l'inconscient. Et comme, effectivement, comme tu l'as senti dans cette histoire, le vrai héros, c'est Paris, je pense qu'on se dirige vers une solution de type psychogéographique, mais cette fois au sens propre. C'est-à-dire que les anomalies sont le signe que la ville a un inconscient qui travaille. Et donc, elle anime les choses, elle anime des ordures, elle anime des ferrailles, elle leur donne des formes analogues à celles de la vie, de plus en plus grosses, de plus en plus agressives, de plus en plus conscientes, jusqu'au moment où la grève prend.
Ouais, c'est le sentiment que j'ai eu, en fait, par rapport à l'une de tes scènes, où on tombe sur une création vivante au sens strict du terme, une forme humanoïde, finalement, parlant son propre langage. Donc là, on en arrive à se dire qu'effectivement, psychologiquement, la ville, on est arrivé au stade où elle essaye de communiquer. Et sur le coup, on se dit, c'est pas une menace, c'est en fait quelque chose qui essaye d'entrer en contact.
Oui, c'est pas une menace. C'est, il faut accepter. C'est peut-être d'ailleurs l'une des choses les plus anciennes et les plus profondes qui caractérisent. Même au-delà de la science-fiction, sur la fiction spéculative en France depuis la fin du 19e siècle, elle a une très grande histoire, de très grandes œuvres, mais elle a toujours eu un mal de chien à faire ce que les cultures anglo-saxonnes ont l'air d'accepter beaucoup plus facilement, qui est le travail de l'extériorité. La culture française s'est longtemps vécue comme une culture parfaite, close, et dans laquelle il n'y avait pas de place pour l'hétérogène. C'est pourquoi, par exemple, les surréalistes ont eu un tel impact, c'est qu'ils ont introduit l'hétérogène dans la culture française par les fous, par les enfants, par les malades, par l'art nègre, ou l'abstrait. On fait rentrer l'hétérogène et on regarde ce qui se passe. Et ça a provoqué des chocs culturels terribles. On les ressent encore aujourd'hui. Je pense que le travail de l'extériorité, le travail de l'alien au sens propre, à la fois ce qui est étranger et ce qui est aliéné, est une chose dont une société contemporaine, qu'une société contemporaine doit pouvoir assumer, parce que le monde est comme ça. Voilà. Il faut une place pour l'étranger à l'intérieur de notre société.
Ouais, de toute façon, là tu touches le mythe originel, pour ainsi dire, des comiques, créés pour la plupart par des artistes juifs.
Non seulement ça,
mais finalement une Europe qui va utiliser un terme qui se dictaturise. Et en même temps, toujours une réappropriation des mythes originels, que ce soit du golem ou autre, mais de l'étranger. Oui. L'étranger qui n'est pas forcément perçu comme un élément négatif.
Le père de tous les super-héros, Superman, est un extraterrestre, c'est un alien.
Oui, ouais, c'est à ça que je pensais.
C'est être capable, comment dire, celui de... C'est très intéressant. Une grande figure de la culture française, chez à la fois le plus connu, le plus conservateur, le plus confortable de nos auteurs fondateurs, Jules Verne. Mais son grand héros dont tout le monde se souvient, c'est Nemo. C'est personne.
Et c'est
un Indien. Bon. Donc, ça me paraît une évidence qu'il y a là un complexe de résonance, d'écho. On sent que dans le dispositif d'une culture en bonne santé, et quand une culture est en bonne santé, elle retentit sur le psychisme de ses habitants, parce qu'ils se vivent comme habitants de cette culture. Donc ils se sentent eux-mêmes en bonne santé d'y être. Dans ce dispositif-là, il faut une place à un mythe qui condense toutes ces figures, celle de l'étranger, celle du demi-dieu, celle du reflet des valeurs ambiantes, celle du surhomme, ça va. C'est trop compliqué de le démêler sur le plan théorique, mais quand on est un artiste, l'avantage c'est qu'on peut synthétiser la théorie sous forme d'une impulsion esthétique. Donc c'est ce que je fais dans Masqué. J'ai des réflexions que je peux théoriser, mais il y a aussi toute une grande part d'intuition qui ne sont pas théorisées. Je me laisse simplement guider par le processus créatif en espérant rester sur la veine, voilà, comme un mineur qui a trouvé un filon. Je reste sur la veine en espérant que c'est bien de l'or. Voilà. J'espère que ce sera actif, j'espère que ce sera pas juste anecdotique. Juste une...
En fait, je suis en train de me dire, tu te réappropries le fait qu'on a été une terre d'accueil bien avant qu'on colle le mot France finalement à ce territoire, comme le sont devenus les États-Unis, qui, tout au long de son histoire, de toute façon, s'est approprié à revisiter certains mythes. Tu reprends, en fait, j'allais dire, la tâche première d'une nation, qui est d'accepter que, de toute façon, sur son propre territoire, il y aura des citoyens, des êtres humains, provenant d'ailleurs, et qui émèneront avec eux-mêmes une partie de leurs idées, de leur culture, et que ces idées, pour ainsi dire, ces mythes, constitueront eux-mêmes le mythe, le ferment de toute nation.
Oui, on peut parler, on peut employer des expressions qui sont très à la mode en ce moment, du roman national ou quoi, mais ça participe de ça, effectivement. Et puis, il y a pas très longtemps, il y avait la Coupe du Monde de rugby, et l'équipe de France s'est comportée d'une manière étrange, enfin, pour ceux qui ont suivi, elle n'a pas joué, pas beaucoup joué, finalement, elle est arrivée en finale où elle a fait un très beau match. Et c'était assez curieux parce que quand on reprochait aux Français, aux joueurs français leur comportement erratique, ils disaient « mais nous, on est des latins ». Et en fait, ça me frappe à chaque fois, depuis quand la France est un pays latin ? On est autant un pays germanique qu'un pays latin. Pendant 1000 ans, l'aristocratie française qui a organisé ce pays est d'origine allemande. C'est les Francs, allemande hollandaise. Et puis, le soubassement, il n'est pas latin, il est celte.
Si j'étais en forme, je te dirais même que l'Empire romain, à la fin, survivait uniquement grâce aux contingents celtes romanisés.
Voilà. C'est comme si les Anglais disaient « nous sommes des Latins parce que nous avons été colonisés par l'Empire romain ». On n'est pas plus latin, on est germanique, on n'est pas plus du nord que du sud, et on est à la fois un pays de l'ouest, mais avec l'Alsace, on se rattache au centre européen. On est un pays carrefour. Voilà. Et en fait, quand on dit qu'on est un pays latin, c'est on amoindrit notre identité, on l'appauvrit. On est un pays carrefour, on est un pays où se sont croisées toutes les cultures du continent depuis toujours. On est une espèce des États-Unis d'Europe en réduction. Voilà. On a 6 ou 7 ethnies majeures, 5 religions, enfin tout le monde se croise ici, tout le monde s'est toujours croisé ici. Voilà. Et effectivement, peut-être que Masqué a une résonance avec cette problématique. Je trouve que plus on essaie de définir la France de manière unidimensionnelle, et plus elle se sent mal, en fait, probablement, parce que c'est pas du tout sa vocation, ça l'a jamais été. C'est un pays carrefour où les gens se croisent.
Pour conclure, est-ce que tu songes après à développer d'autres œuvres inventant notre relation au monde réel ?
Précise ta question.
Moi, je pars du principe que ça, en fait, que ce soit la Brigade Chimérique ou Masqué, c'est un début. Tu ouvres une porte. Est-ce que tu songes à partir de là, justement, à continuer dans cette veine-là ?
Écoute,
ou à aborder justement, à essayer d'aller au-delà. Vu que toi, ton...
Moi, j'ai pas de... comment dire
T'as pas de plan sur ça.
Je vais répondre tout à fait honnêtement, mais c'est une réponse en deux temps. J'ai pas de plan de carrière, mais ce serait évidemment stupide de dire que j'espère que ça va... Ça s'arrêtera là, etc. Pas du tout. Si on me laisse la possibilité de faire 100 albums, je ferai 100 albums. Si un jour on peut passer en comics en kiosque, c'est un de mes vœux le plus cher, c'est-à-dire faire de l'authentique bande dessinée populaire, et un jour ou l'autre voir des gamins qui se déguisent avec le costume des personnages, je serais ravi. Voilà. Parce que ça voudrait dire que le réveil a pris. Donc ça, c'est... Voilà, j'espère continuer à développer cet univers, tout comme apparemment... Enfin, pas apparemment, certainement, on continue de développer l'univers de la brigade, puisque ça a suffisamment bien marché pour qu'on recommence quelque chose sur la période des années 20-30 avec Jess. À la fin de l'année, il y aura un nouvel album. Mais ça, c'est la réponse A. La réponse B, c'est que pour les anomalies, je ne fais pas de planning à 10 ans, ni même à 5 ans. Je fais les œuvres, et puis en fonction de ce que j'ai éprouvé, en fonction de ce que les lecteurs éprouvent et manifestent, en fonction des idées que ça déclenche, des associations qui viennent, mon appétit de création se dirige vers des sujets parallèles, très différents, etc. Je me suis remis à écrire un roman, j'ai un projet de bande dessinée qui est d'un ordre tout à fait différent, presque réaliste, avec une pointe de mythologie à l'intérieur, contemporaine. Je ne sais pas d'avance où ça va me mener, quoi, voilà. Et j'aime bien cet état d'incertitude. Donc je suis tiraillé entre deux, mais comme tout le monde je pense, entre deux pulsions contradictoires. J'ai envie de sécuriser cet univers et de le poursuivre et de le prolonger et de l'enrichir, parce qu'encore une fois, si on me donne l'occasion, je peux faire sans histoire, sans problème. Et en même temps, j'aime cet état d'aventure qui fait que je ne sais pas du tout ce que j'écrirai dans 2 ou 3 ans. Donc il faudra que je fasse avec les deux.
Et en fait, pour piquer un terme à un autre écrivain célèbre, tu continues à construire ta bibliothèque, ou même, pourrais-je dire, ton temple bibliothèque.
Mon temple, tu sais, j'ai pas encore fait l'œuvre qui me... où je pourrais me dire, ah c'est marrant, je raconte cette anecdote parce qu'elle m'a beaucoup frappé. Un jour, je lisais l'interview de Moebius. Et donc Moebius, à la fin des années 60, avec Dionnet, avec Druyet, commençait à faire la rubrique de science-fiction dans Pilote, qu'ils avaient arraché de haute lutte à René Goscinny. Et puis commence à se sentir très à l'étroit dans le marché de la bande dessinée, enfin à l'époque, bien que Giraud ait un très grand succès avec Blueberry, décide d'aller voir un peu du côté des journaux qui se créent à ce moment-là, après mai 68, pour finir par faire Metal World. Et Moebius fait 3 histoires. Il fait La Déviation, qui paraît dans le pilote, je crois, qui est une histoire complètement expérimentale. Il fait Arzak, qui est une histoire sans parole, splendide. Et il fait Le Garage Hermétique de Jerry Cornelius, qui est un des grands chefs-d'œuvre de la bande dessinée mondiale, qui est un feuilleton totalement improvisé de 200 planches sur 3 ans. Et aucune de ces histoires n'est un succès, c'est-à-dire que c'est des histoires courtes, puis un feuilleton sans queue ni tête. Voilà, donc en termes de public, ça ne veut rien dire. Mais Moebius raconte que, après avoir fait ces 3 histoires, il s'est senti intensément soulagé et qu'il a ressenti qu'il avait fait ce qu'il avait à faire. Et qu'à partir de là, il était en paix. Voilà. Parce qu'il avait, effectivement, quand on regarde, ces 3 histoires ont une importance considérable dans le développement de la bande dessinée contemporaine. Quoi, ces 3 histoires qui sont des références pour tous les créateurs de bande dessinée du monde entier. Et je pense que, alors c'est peut-être un mythe, c'est peut-être que ça se passe différemment pour suivant les créateurs, mais je ressens toujours l'insatisfaction de celui qui n'a pas fait ces 3 histoires. Voilà. Peut-être que j'aurais jamais ce sentiment d'avoir fait ce que je devais faire. La Brigade m'en a rapproché, mais c'est pas encore.
Non, moi j'ai le sentiment qu'on touche quelque chose.
Alors, on verra, écoute, c'est très gentil en tout cas, je suis
bien, merci.
Merci beaucoup.
Et puis à une éventuelle suite pour le tome 2.
En juin. À très bientôt.